Delacroix sur Europe 1.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Europe 1. C'est avec plaisir que je vous retrouve comme chaque jour à 16h et en direct pour partager vos expériences de vie. À mes côtés, ma charmante camarade Ombline.
Bonjour.
Comment allez-vous aujourd'hui?
Ça va bien. Bonjour Olivier, bonjour,
bonjour
à tous.
7h, c'est la vôtre. Comme vous le savez, on parle de vous, de ce qui vous anime, de votre vécu, car il nous intéresse. Alors, on va parler du travail aujourd'hui. Faut-il aimer son travail pour être heureux? Cette question, qui pourrait être le sujet d'une dissertation de philosophie, interroge. Il y a d'un côté, ceux qui travaillent et qui vivent pour leur travail, un travail passion, comme on dit, et de l'autre, ceux qui s'en contentent, qui cherchent surtout une stabilité financière et de quoi payer leurs factures. Il y a aussi ceux qui le subissent. Aujourd'hui, 7 salariés sur 10 ne se sentent pas reconnus à leur juste valeur. C'est le résultat d'une étude menée en 2015 par Deloitte et Cadre Emploi. Est-ce sain de faire de son travail la clé de son bonheur, ou doit-on prendre de la distance, ou au contraire, y trouver un intérêt? Faut-il aimer son travail pour être heureux? C'est notre sujet d'aujourd'hui sur Europe 1. Nous attendons vos témoignages, nous attendons vos histoires. Nous sommes là et nous sommes maintenant avec Noémie Lemen, qui est psychologue du travail, coach, fondatrice du cabinet UpChange. Bonjour madame, merci d'être avec nous sur l'antenne d'Europe 1 cet après-midi.
Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie d'être là.
Bah, écoutez, nous aussi. Première question sur l'amour, ou en tout cas le bien-être que l'on peut ressentir au travail. D'abord, est-ce qu'on doit se sentir utile pour l'aimer, ce travail?
Bah, ça dépend des gens. Il y a des gens qui vont avoir besoin d'être utiles pour aimer leur travail, et puis il y a des gens qui vont avoir d'autres besoins. Et c'est comme ça aussi. L'avantage, c'est que du coup, chacun peut trouver un travail qui va lui correspondre. Mm-hmm. Mais il est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ont besoin d'avoir le sentiment de servir à quelque chose, parce que ça les conforte dans un positionnement, une place qu'ils ont dans la société. Donc, oui. Quand j'ai ma place, eh bien, finalement, je suis plus solide et je me sens plus à l'aise dans la vie puisque j'ai ma place.
Mmh. Ce que vous entendez par là, c'est que on n'est pas obligé d'aimer son travail, mais il peut correspondre à un très bon salaire, ce qui nous marque socialement. Et pour certains, finalement, c'est ça qui est important, c'est de gagner de l'argent et de pouvoir acquérir une sorte de liberté.
Mm-hmm. Exactement. Nous n'avons pas tous les mêmes besoins. Pour certains, leur besoin va être, par exemple, d'avoir une position sociale très élevée. Donc, ils vont se sentir plus épanouis quand ils auront cette position sociale.
Mm-hmm. Mais vous, lorsque vous travaillez sur ce milieu du travail, en fait, quelles sont les principales motivations que vous retrouvez face à ceux qui viennent vous en parler?
Eh bien, ça peut être, par exemple, aider.
Oui.
Il y a des gens qui vont avoir besoin d'aider. Il y a des gens qui vont avoir besoin de séduire, par exemple, si c'est « je plais, j'ai un public, donc je suis », d'autres « j'aide ». Il y a des gens qui vont avoir des besoins qui vont être, par exemple, je dirige, je commande.
Oui.
Je commande. Donc, le fait de commander et de diriger va être porteur et va leur donner le sentiment de s'épanouir. Mmh. Il y a des gens pour qui ça va être « je crée, j'invente ». Donc, le fait d'être dans l'invention va être pour eux un grand plaisir et un grand bonheur. Les motivations sont différentes, mais là, je vous en ai donné quelques-unes, comme ça. Aider, séduire, commander, créer,
inventer. On a parlé de gagner de l'argent aussi.
Gagner de l'argent, mm-hmm. Créer du lien aussi. Il y a des gens pour qui ce qui est important, c'est d'être en relation avec d'autres.
Ouais.
C'est d'être en lien avec d'autres pour finalement se sentir bien. Donc créer du lien entre des communautés, entre des gens, ça peut être aussi une motivation.
Mais est-ce qu'en règle générale, le travail alimentaire est-il forcément source d'ennui, problématique par rapport à tous ceux que vous rencontrez?
Ben, la manière dont vous le parlez, déjà, le fait que ce soit alimentaire, ça veut dire que ce n'est pas une passion.
Oui, mais ça peut correspondre, comme je l'ai dit, tout de même à un certain salaire. Or, c'est vrai que le salaire ne fait pas tout.
Ah oui, ce que vous entendez par alimentaire, ça veut dire que je ne suis pas dans mes motivations.
Exactement. On sort des motivations dont vous venez de parler, et puis on décroche. Voilà, on décroche quelque chose qui est bien payé, qui est très bien payé, mais bon, c'est par exemple pour.
Généralement, quand on est dans un métier quand même qui ne correspond pas à ses motivations, on n'est quand même pas très bien.
C'est difficile.
Si on est dans un métier même qui est à l'opposé de ses motivations, on n'est pas bien. Ce qui est important, c'est d'être dans ses motivations intrinsèques, plus on est en phase avec ses motivations et ses valeurs, en fait, hein, comme on voit la personne Nina qui, finalement, aime bien aider, qui aime bien aider les gens, donc sa valeur, elle dit, je défends pas des boîtes de concert, je défends des gens, elle se sent aussi en lien avec ses valeurs. Et donc, plus on est en lien, plus le métier ressemble à quelque chose de passionnel, en fait, de fondamental. En fait, du coup, ces gens-là n'ont pas l'impression de travailler. Mmh. Ces gens-là, finalement, existent plus. Donc, c'est l'avantage. On dit, si vous voulez ne pas travailler, choisissez de travailler dans votre passion.
Je dirais que dans toutes les motivations que vous avez citées, pratiquement, Nina, toutes ces motivations sont dans ce premier témoignage, celui de Nina. Mais pour ceux qui ont un travail qu'ils n'ont pas choisi obligatoirement, on parle d'un travail alimentaire, c'est-à-dire que voilà, on a trouvé un poste à un moment parce que on n'est pas allé obligatoirement jusqu'au bac, parce que la vie a fait que. Est-ce que le télétravail, les bureaux aménagés, les happiness managers, les siestes, tout ce qui est mis en place aujourd'hui pour le bien-être des salariés, hein, pour améliorer ce quotidien qui n'est pas toujours facile, est-ce que cela permet de rendre ce travail plus moralement et physiquement acceptable?
Alors déjà, il faut faire un petit peu le distinguo entre bonheur et épanouissement, hein, c'est important, parce que le travail n'est pas c'est pas le bonheur c'est on le fabrique soi-même, mais en fait un travail épanouissant c'est un travail qui vous permet de vous développer en cohérence avec vos valeurs et vos motivations. Donc ça c'est différent. Donc votre question c'était si je suis pas en cohérence avec mes valeurs
si
et mes motivations.
Si j'ai un travail qui ne correspond pas vraiment à, comme Nina, à mes rêves, et que finalement je travaille parce que il faut que je gagne ma vie, mais que ça ne m'épanouit pas totalement. Est-ce que tout ce qui est mis en place aujourd'hui par les patrons de ces entreprises, comme le télétravail, les bureaux aménagés, les happiness managers, est-ce que ça contribue vraiment à rendre ce travail plus agréable, en fait?
Aider, puisque ça rajoute pas une contrainte et ça rajoute pas du stress. C'est-à-dire que ça sera plus facile dans un environnement qui prend soin de vous plutôt que dans un environnement qui vous maltraite. C'est évident. Mais c'est pas ça qui va fournir finalement le vrai épanouissement. Oui. Je sais pas si vous connaissez l'histoire du casseur de cailloux.
Non. Mais vous savez quoi, Noémie Lemaine, vous allez me la raconter juste après. Vous restez en ligne avec nous. Je rappelle que vous êtes psychologue du travail. Dans quelques instants, nous serons avec Frédéric. Il a été victime de burn-out. C'est le fait de s'ennuyer profondément au travail. Il souhaite aujourd'hui faire reconnaître cette pathologie. Et vous pourrez me raconter cette histoire du casseur de cailloux. Et nous sommes toujours avec Noémie Lemaine avant d'accueillir dans quelques instants Frédéric. Noémie Lemaine, vous étiez en train de me raconter votre histoire. En tout cas, je vous ai interrompu juste au début de cette histoire de casseur de cailloux. Quelle est-elle?
Je vais la raconter brièvement.
Oui,
fait, il y a deux casseurs de cailloux, chacun en train de casser des cailloux sur leur tas de cailloux.
Oui.
Donc, quelqu'un leur demande « qu'est-ce que tu fais ?» Demande au premier « qu'est-ce que tu fais ?» Il répond « c'est pas très intéressant, je casse des cailloux toute la journée, c'est l'enfer, c'est pas agréable, c'est très pénible. » Okay,
oui.
Et on demande à l'autre « et toi, qu'est-ce que tu fais ?» Il faisait donc la même chose, il casse des cailloux. Et l'autre répond, moi je fais un travail qui permet de payer les études de mes enfants, de payer mon loyer, puis de partir en vacances, et puis ça me paye une guitare parce que j'adore faire la guitare dans mes loisirs. Et puis en plus, je sais que ces cailloux, ils vont participer à la construction des cathédrales. En fait, moi, je construis des cathédrales.
Ouais. Elle résume tout, votre histoire de casseur de cailloux. Justement, on va vous rester bien évidemment en ligne avec nous, hein, Noémie Lemaine.